Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorsil et Anastasie Tudiech, bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition du jeudi 17 mars 2016. Au sommaire ce soir.
L'opposition politique nigérienne annonce qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin de dimanche prochain.
La COPA 2016 porte à la connaissance de l'opinion sa décision de ne pas reconnaître les résultats et les institutions issues des élections présidentielles et législatives.
Burkina Faso, le nouveau gouvernement révoque la nomination de l'ex-premier ministre Isaac Zida comme ambassadeur à Washington.
Depuis un bon moment, la presse nationale ne cesse de faire des révélations sur les supposées affaires dans lesquelles serait mêlé le général Yacouba Isaac Zida.
Nous parlerons de la campagne électorale et des tractations politiques en cours à quelques jours du second tour de la présidentielle du Bénin.
Et nous verrons aussi la situation en Syrie, notamment le rejet du projet fédéral des rebelles kurdes syriens et les négociations en cours à Genève.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout de suite, c'est le journal.
Au Niger, l'opposition politique a annoncé qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats du second tour de la présidentielle de dimanche. Le scrutin devait opposer le président sortant, Mahamadou Issoufou, à Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale, emprisonné dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés. Il se trouve depuis hier à l'hôpital américain Paris pour des soins, après une dégradation de son état de santé dans la prison. Et les partis de l'opposition qui soutiennent la candidature de Hama Amadou ont décidé de ne pas prendre part au vote. Écoutons Amadou Djibo Ali, un des leaders de l'opposition nigérienne.
La COPA 2016 réitère son boycott du scrutin du 20 mars en invitant ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, ainsi que tous les citoyens épris de paix, de justice et d'égalité, de ne pas sortir le 20 mars, de rester à la maison afin de consacrer la journée du 20 mars à la prière, au recueillement, à la méditation, au jeûne, afin que Dieu descende la paix et la stabilité sur notre pays. La COPA 2016 porte solennellement à la connaissance de l'opinion nationale et internationale sa décision de ne pas reconnaître les résultats et les institutions issues des élections présidentielles et législatives.
Amadou Djibo Ali, un des leaders de l'opposition nigérienne.
L'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida ne sera pas l'ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis d'Amérique. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres du mercredi 16 mars. Hier donc, le Conseil a pris décret annulant celui qui avait été pris par le président de la transition, Michel Kafando. Reportage tout de suite de Zoumana Onogo.
C'est le 22 décembre de l'année passée, à quelques jours de la fin de la transition, que le président Michel Kafando a pris le décret nommant Yacouba Isaac Zida comme ambassadeur du Burkina auprès des États-Unis. Et c'est seulement le 10 mars dernier que ce décret a été publié dans le journal officiel du Faso. Toute chose qui n'a pas été du goût des nouvelles autorités qui, en conseil des ministres, ont pris un autre décret. Celui-ci met fin aux fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina auprès des États-Unis du général Yacouba Isaac Zida. Le gouvernement interprétant cette publication comme une forme de pression qu'on voudrait lui faire. Ensuite, depuis un bon moment, la presse nationale ne cesse de faire des révélations sur les supposées affaires dans lesquelles serait mêlé le général Yacouba Isaac Zida. Zoumana Onogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Burundi, au nom du gouvernement, le ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique demande qu'une plainte soit déposée contre le président rwandais Paul Kagame dans les tribunaux internationaux habilités. En même temps, le ministre de l'Intérieur appelle certains responsables des églises reconnues par la loi à ne pas répandre ce qu'il appelle de fausses prophéties sur le Burundi pour semer la zizanie et la désolation au sein de la population. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Pour le ministre de l'Intérieur et de la Formation Patriotique, depuis le mois de mai de l'année dernière, le président Kagame et le Rwanda ont posé des actes ignobles à travers l'entraînement et l'enrôlement de Burundais résidant dans des camps de réfugiés rwandais. Leur objectif, selon le même ministre de l'Intérieur, est l'élimination des leaders burundais, mais aussi la destitution des institutions. Avec des preuves que le ministère burundais de l'Intérieur possède, malgré les contestations du président rwandais, jamais au grand jamais, selon le même communiqué, le gouvernement burundais ne peut en aucun cas s'asseoir autour d'une même table table avec ceux qui ont voulu renverser les institutions. Le gouvernement burundais a toujours accusé le Rwanda d'abriter les putschistes, accusation que le Rwanda a toujours niée. Dans le même communiqué, le gouvernement burundais affirme que les responsables des églises ont dévié de leur rôle d'encadrement spirituel des fidèles en proférant des communiqués qui prêtent main forte aux fauteurs de troubles et au terrorisme. Ces fausses prophéties qui poussent les Burundais à l'exil devraient cesser sans tarder. Enfin, dans le même communiqué, le ministre de l'Intérieur dénonce certains médias étrangers d'avoir joué un grand rôle dans la préparation des montages de diabolisation et de calomnie sur le Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo a refusé la liberté provisoire à Fred Boma et Yves Makwambala. Les deux militants, chacun la vingtaine, ont été arrêtés à Kinshasa le 15 mars 2015 lors d'une rencontre internationale sur la bonne gouvernance en Afrique organisée par le mouvement Filimbi qui se présente comme un collectif de mouvements d'éducation à la citoyenneté non partisan et non violent. Ils sont poursuivis par la justice congolaise pour complot contre le président Joseph Kabila.
Les gardes-côtes et les forces spéciales de la marine libyenne ont secouru aujourd'hui au large de la Libye 187 migrants, parmi lesquels figurent 64 Soudanais, 4 Sud-Africains et 3 Nigérians. 4 corps sans vie ont également été découverts après un incendie sur une embarcation, selon l'agence de presse libyenne. Une enquête a été ouverte pour connaître l'origine de l'incendie. Les migrants rescapés seront remis aux autorités de lutte contre la migration clandestine à Zaouia, toujours selon l'agence libyenne. Encore faut-il rappeler que les gardes-côtes italiens ont annoncé hier que plus de 2400 migrants avaient été secourus depuis mardi au large de la Libye et que 3 corps avaient été récupérés.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce soir pour tenter d'apaiser les tensions entre l'ONU et le gouvernement marocain à propos du Sahara occidental. C'est ce qu'a indiqué Ismaël Gaspard Martins, le président du Conseil. Le Maroc a décidé de réduire sa contribution à la MINURSO suite aux propos tenus début mars par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui avait parlé d'occupation à propos du statut du territoire. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déploré hier la décision marocaine et a affirmé dans le même temps que M. Ban Ki-moon maintenait ses propos et qu'il avait renoncé, vu les circonstances, à une visite envisagée à Rabat et Laayoun, principale localité du Sahara occidental.
L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est désormais terminée en Sierra Leone, une nouvelle que l'Organisation mondiale de la santé accueille avec soulagement mais prudence. L'épisode libérien est encore vivace. L'annonce de l'arrêt au Libéria voisin avait aussitôt été suivie de la découverte d'un nouveau cas en Sierra Leone, pourtant déclaré une première fois exempte de transmission le 7 novembre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry dit avoir déterminé que les atrocités commises par le groupe État islamique constituent un génocide. Idrissa Sédoudia.
Le Congrès américain avait donné à M. Kerry jusqu'au 17 mars pour une décision sur la définition des atrocités commises par l'organisation terroriste contre les minorités religieuses et ethniques en Irak et en Syrie. Le département d'État précise qu'une obligation légale particulière ne résulterait pas nécessairement du fait de reconnaître qu'il y a eu génocide ou des crimes contre l'humanité dans un autre pays. Le secrétaire d'État Colin Powell, pour rappel, avait parlé de génocide en 2004 en réaction aux meurtres et viols de masse au Darfour soudanais. Toutefois, une telle conclusion aurait certaines implications politiques concernant les migrants, selon le député Jeff Fortenberry du Nebraska. Par exemple, a-t-il expliqué, une plus grande priorité pourrait être accordée à ceux qui font face à une grave menace d'extermination. Monsieur Fortenberry représente une circonscription où résident de nombreux yazidis, une communauté religieuse kurde qui a été la cible répétée dans le nord de l'Irak des exactions du groupe État islamique qui les considère comme des mécréants. Il a dit à la Voix de l'Amérique, quand il y a tentative systématique d'exterminer un autre groupe, c'est non seulement une injustice, mais aussi un assaut contre la dignité humaine et par conséquent une menace à la civilisation même.
Un juge de Brasilia a ordonné la suspension de l'entrée au gouvernement de l'ex-président brésilien Luiz Inácio da Silva, alias Lula, y voyant une possible entrave à la justice de la part de la présidente Dilma Rousseff. C'est ce que rapporte l'agence France-Presse, citant une source judiciaire. Des manifestations se sont déroulées aujourd'hui dans plusieurs villes brésiliennes contre la décision du chef de l'État de nommer l'ex-président Lula au poste de secrétaire général de la présidence. Ils étaient à peu près 2000 à Brasilia et São Paulo protestant contre le retour de Lula sur la scène politique. En tant que membre du cabinet de la présidente, Lula, qui est soupçonné dans une affaire de corruption à Petrobras, le géant brésilien du pétrole, ne peut être jugé que par la Cour suprême. Il dément toute implication dans ce dossier.
La chancelière allemande Angela Merkel a manifesté aujourd'hui un optimisme prudent avant des négociations sur un accord crucial entre l'Union européenne et la Turquie sur les migrants, soulignant selon l'AFP qu'il restait beaucoup de choses encore à régler. De son côté, le président du Conseil européen Donald Tusk, chargé par les 28 de négocier avec Ankara, avait déclaré jeudi matin, donc ce matin, « Je suis prudemment optimiste, mais pour parler franchement, je suis plus prudent qu'optimiste. »
Au moins 119 personnes, dont 22 enfants, ont péri dans les frappes de la coalition arabe sur un marché du nord du Yémen. L'un des bilans les plus lourds dans le conflit depuis près d'un an. Le secrétaire général de l'ONU a condamné l'attaque et appelé tous les belligérants à respecter pleinement leurs obligations internationales, y compris les principes de précaution et de proportionnalité. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco et c'est tout de suite avec Eric Manirakiza.
L'autonomisation économique des femmes a été placée au cœur des débats pendant les deux derniers jours de la 60e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. Objectif visé, définir des conditions pour accélérer les progrès dans le cadre du programme 2030 pour le développement durable. Pour atteindre les résultats escomptés, l'énergie, la puissance et la créativité des femmes sont absolument nécessaires, a estimé Simona Scarpa-Leggia, qui se penche sur cette préoccupation onusienne. Le Fonds monétaire international vient au secours de l'économie kényane, jugée vulnérable au choc et moins favorable aux conditions des marchés financiers, mais aussi évoluant dans un environnement de menaces sécuritaires permanentes et des conditions météorologiques extrêmes. Ainsi, un accord de 1,5 milliard de dollars américains a été conclu pour faciliter les crédits. Enfin, le gouvernement ghanéen veut limiter l'importation du ciment pour protéger la production locale, largement supérieure aux besoins du pays, avec un excès de près de 3 millions de tonnes métriques par an. Le ministre du Commerce a donc engagé le Parlement à adopter une loi en vue de soutenir l'action du gouvernement. L'importation a aggravé la surabondance dans l'industrie, a-t-il estimé. Certains jeunes ont récemment manifesté pour demander au chef de l'État d'intervenir, arguant que l'importation du ciment met en danger les emplois existants dans l'industrie locale.
C'était la Minute Éco signée Eric Manirakiza.
Pour l'actualité sportive ce soir, nous avons avec nous Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Parlons d'abord de l'Afrique du Sud qui dément les accusations de corruption pour la Coupe du Monde 2010.
Le pays n'a jamais payé de pot de vin pour obtenir le droit d'organiser le Mondial de football 2010. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi Fikile Mbalula, le ministre sud-africain des Sports, devant la presse en réponse au rapport publié la veille par la FIFA. Dans une première version de ce rapport, la FIFA accusait l'Afrique du Sud d'avoir acheté le Mondial. Mais hier, en fin de journée, une clarification a été apportée puisque la FIFA a ajouté qu'elle ne prétendait pas que l'Afrique du Sud avait usé de corruption pour obtenir sa Coupe du Monde, affaire à suivre.
Des nouvelles de Yaya Touré.
Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Michel Dussuyer, a retenu 24 joueurs pour la double confrontation face au Soudan le 25 et le 29 mars prochain en éliminatoire de la CAN 2017. On note les retours de Max Alain Gradel, de Wilfried Canon et surtout de Yaya Touré. Le joueur de 32 ans a un an de la fin de son contrat qui touche actuellement plus de 310 000 euros par semaine. Eh bien, son agent a lancé un ultimatum au club de Manchester City. La semaine prochaine, nous devrons trouver une solution. Soit Yaya prolonge son contrat, soit il partira dans un autre club. Mais s'il quitte Manchester City, ça ne sera sûrement pas pour un autre club anglais. C'est ce qu'il a déclaré.
Un coup d'œil sur le tennis, Masters de Monte Carlo.
Le tournoi monégasque verra pour la première fois depuis 7 ans le Big Four réuni en avril prochain avec le retour d'Andy Murray absent lors des deux dernières années. Le numéro 2 mondial qui retrouvera le numéro 1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic ainsi que Roger Federer et Rafael Nadal.
Et on termine en basket. NBA, championnat de basket nord-américain.
Le champion NBA en titre Golden State a signé sa 50e victoire consécutive dans sa salle en écrasant les Knicks de New York 121-85. A noter les 34 points de Stephen Curry. Une fois n'est pas coutume, LeBron James a été laissé au repos et Cleveland est venu à bout de Dallas 99-98. Oklahoma City a dominé Boston dans sa salle 130-109.
Merci pour les sports, Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Notre première escale ce soir, le Bénin.
Oui, les Béninois vont aux urnes dimanche pour le second tour du scrutin présidentiel. Les deux candidats en lice, le Premier ministre Lionel Zinsou, candidat au pouvoir en place, porté par l'Alliance républicaine, et Patrice Talon, homme d'affaires, membre de la coalition dite de rupture. Des tractations se font dans les deux camps, l'envie de succéder à Yayi Boni oblige. Que dire du climat politique au Bénin à quelques jours de ce scrutin? Les précisions avec notre correspondante Ginette Fleur à Dindé.
La campagne électorale au Bénin pour le second tour du scrutin présidentiel n'a pas la même couleur que celle du premier tour. Elle se fait en toute discrétion sur le terrain, mais c'est sur les réseaux sociaux qu'elle se fait à coups de mensonges, d'intoxications et de montages rocambolesques. La première à essuyer le revers de la chose est l'Église catholique qui, selon un journal, la Tribune de la Capitale, aurait appelé à voter Lionel Zinsou en vue de barrer la voie à Patrice Talon. La réaction de la conférence épiscopale ne s'est pas fait attendre.
Aucune déclaration dans ce sens. Il ne lui revient pas de donner des consignes de vote aux citoyens pour une élection. Que Dieu bénisse et protège le Bénin.
Seul contre tous au premier tour, Patrice Talon sera rejoint par une trentaine de candidats et un nombre impressionnant de mouvements et d'associations, tous convaincus qu'il reste le choix idéal pour diriger le Bénin.
Je demande au peuple béninois de ne jamais céder aux manipulations et à la corruption électoraliste d'où qu'elles viennent.
Ce n'est plus acceptable qu'on nous prenne tous pour des idiots. Ça suffit. Donc je compte sur vous dimanche prochain.
Accompagner la coalition de la rupture, c'est voter massivement le président Patrice Talon.
La BAC du camp présidentiel se vide chaque jour. Même le pasteur attitré de Yayi Boni, Michel Alokpo, vient de sauter dans la BAC de la rupture.
J'invite le peuple béninois à se rendre aux urnes le dimanche 20 mars 2016 pour faire le choix de la rupture et du nouveau départ en votant massivement pour le président Patrice Talon. C'est le candidat du peuple.
Mais cela n'émousse guère l'ardeur des pro Lionel Zinsou qui restent confiants que le peuple votera massivement pour leur candidat le 20 mars prochain.
Le meilleur choix, c'est le refus catégorique de l'achat de conscience et le report de toutes les voix sur Lionel Zinsou pour un Bénin gagnant. Nous conduirons la BAC jusqu'au bout. Lionel Zinsou gagnera.
Le président Yayi Boni a fait de son mieux. Mais il faut qu'on continue ce travail-là. Mais mes jeunes, voter autre chose que Lionel le 20 mars, nous reculons.
La campagne électorale prend fin ce vendredi à minuit pour laisser place dimanche au vote que l'ancien président Nicéphore Soglo souhaite paisible et transparent.
Le rêve que nous avons, c'est que ceux qui vont prendre les rênes de ce pays permettent à la CEDEAO de devenir une réalité. Que nous ayons une monnaie qui sont les signes distinctifs d'une nation, une armée capable de nous protéger contre les atteintes et les violences extérieures ou intérieures. C'est pas facile, mais je leur fais confiance.
De Lionel Zinsou et Patrice Talon qui sera couronné successeur de Yayi Boni. Le dimanche n'est plus très loin. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Deuxième et dernier jour de la conférence mondiale des jeunes parlementaires qui se déroule à Lusaka en Zambie. Alors que la proportion des jeunes dans le monde n'a jamais été aussi élevée, ils sont largement sous-représentés dans les parlements, constate l'Union interparlementaire dans un nouveau rapport. Nathalie Barge a joint Barry Bourema, jeune député burkinabé.
Nous attendons qu'on prenne en compte la jeunesse dans la sphère politique et voire décisionnelle. Il faut qu'on accorde plus de pouvoir, donc plus de poids à la jeunesse pour qu'elle puisse prendre en main son destin.
Au niveau du Burkina Faso en particulier, depuis le changement de régime en quelque sorte, est-ce que vous avez noté des progrès ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt pour en parler ?
Si, si, nous avons noté des progrès parce que déjà au niveau de la confection pour les législatives, pour ce qui est en tout cas de mon parti, ils ont tenté à respecter le quota de 30% au moins des jeunes. C'est-à-dire qu'il fallait que la liste comporte pour chaque province, pour chaque localité, il fallait que ça comporte au moins 30% de jeunes. Les autres partis également ont tenu compte. C'est déjà un progrès parce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes une dizaine à l'Assemblée, des jeunes de moins de 40 ans.
Une dizaine sur combien ?
Sur 127.
C'est moins de 10%.
Oui, c'est encore peu. Nous reconnaissons que c'est encore peu. Je pense que déjà les efforts sont faits. Et déjà le fait de fixer le quota au niveau donc, de la participation donc, aux élections, c'est déjà une bonne chose.
Est-ce que au Burkina Faso, s'il y avait plus de jeunes, encore une fois, en politique, on pourrait éviter ce type de crise qu'il y a eu donc dernièrement ? Est-ce que vous pensez que la jeunesse permettra que cela n'arrive plus jamais, finalement, des gens qui s'accrochent au pouvoir ?
Oui, je pense. Je pense que la jeunesse actuellement, c'est une jeunesse consciente. Elle n'a pas pour vocation donc de venir revenir aux anciennes méthodes, aux anciennes, c'est-à-dire où on veut s'éterniser au pouvoir, on veut modifier 10 fois la Constitution. Je pense que nous sommes tous aujourd'hui conscients du fait que nous avons donc notre contribution pour le développement et ça passe par l'alternance politique et ça passe par la bonne gouvernance. C'est tout ce que cette demande, qu'on la responsabilise, qu'on ait confiance en elle. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, on a parlé des ODD. C'est objectif 2030. 2030, moi, j'aurai 50 ans. Donc, c'est mon avenir que je construis. Je n'ai pas intérêt à ce que ça échoue. Donc, vous comprenez un peu que si on permet à la jeunesse de prendre en main toutes ces initiatives, tous ces projets et programmes de développement, ça leur permettre en tout cas une meilleure réussite et amorcer vraiment le développement et la bonne gouvernance.
Barry Borema, député du Burkina Faso, où d'ailleurs une commission de rédaction d'une nouvelle constitution vient tout juste d'être créée.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au Tchad, la campagne présidentielle démarre officiellement le 20 mars, selon le chronogramme de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, la plateforme des organisations de la société civile, hostile au cinquième mandat du président Idriss Déby Itno, se mobilise pour exiger le retrait de sa candidature. Le point avec André Kodmajingar.
Après la ville morte et la journée sifflée citoyen pour l'alternance au Tchad, la plateforme des organisations de la société civile, notamment le mouvement citoyen IINA, ça suffit, et trop c'est trop, change des stratégies de lutte. À la veille du lancement officiel de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2016, ces organisations multiplient des mouvements de désobéissance civique. Surnommé arbitre central par la presse indépendante tchadienne suite à son appel à une journée sifflée citoyen le 10 mars dernier, la porte-parole de la coalition Trop c'est trop, Narma Diceline appelle cette fois-ci à une opération tintamarre qui consiste à taper sur la casserole le 20 mars, le jour même du lancement officiel de la campagne présidentielle.
Que l'opinion nationale et internationale entende le concert des casseroles et marmites vides qui se sont vidées progressivement depuis 1990 par la confiscation de vos droits sociaux, économiques et culturels. Ce sont vos marmites et vos casseroles et sifflets. Mettez-vous devant vos portes et tapez. Faites autant de bruit que vous pouvez pendant 15 minutes dès 6 heures du matin et 15 minutes à partir de 17 heures le 20 mars 2016. Depuis 25 ans de règne de M. Idriss Déby, l'injustice sociale a atteint des proportions inacceptables.
Le porte-parole du mouvement citoyen IINA, Nadio Kaina, programme une manifestation pacifique pour le mardi 22 mars 2016 sur toute l'étendue du territoire national.
Il est inadmissible que des jeunes comme nous, qui la plupart avaient à peine 10 ans à l'arrivée du MPS, deviennent des milliardaires aujourd'hui, pendant que certains d'entre nous, presque à l'âge des retraites, ne trouvent même pas la possibilité d'accéder à la fonction publique. Pire, il existe aujourd'hui des milliardaires de 17 ans connus. C'est pourquoi le mouvement IINA décide décide d'organiser des manifestations pacifiques. On peut tromper un peuple un temps, une partie du peuple tout le temps, mais jamais tout le peuple tout le temps.
La plateforme Ça suffit, quant à elle, appelle à une marche pacifique le 29 mars prochain si le président Déby ne retire pas sa candidature dans un délai de 2 semaines. Mahamat Nouri Bédou est le porte-parole de la plateforme Ça suffit.
C'est votre droit de refuser un 5e mandat à Déby parce que le préambule de notre constitution vous permet de vous opposer à tout régime politique qui gouverne par l'arbitraire, le clanisme, le népotisme, le tribalisme et la confiscation du pouvoir. Tout ce qui caractérise le système Déby.
André Kodouma Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur l'attaque terroriste de Grand Bassam, inédite en Côte d'Ivoire. ACMI revendique la tuerie qui s'ajoute à celle de Bamako et Ouagadougou. En moins de 4 mois, l'Afrique de l'Ouest voit rouge. Faut-il élargir le G5 dans la lutte antiterroriste? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h, temps universel.
Les Kurdes de Syrie ont proclamé aujourd'hui une région fédérale dans le nord du pays. Cette initiative a été immédiatement rejetée par Damas et l'opposition qui négocie à Genève pour tenter de mettre fin à 5 ans de conflit. Exclus de ce processus, les Kurdes syriens ont voulu envoyer un message. Idriss Fall a joint à Istanbul en Turquie Maria Fontapi, spécialiste de la Syrie à International Crisis Group.
C'est vrai que le projet de constituer une région fédérale, il est commencé depuis quelques temps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, les forces militaires des Kurdes ont eu beaucoup de succès dernièrement, surtout dans la bataille contre l'État islamique, en profitant du soutien militaire américain et aussi profitant d'une sorte de partnership avec des autres acteurs comme la Russie, mais aussi les régimes syriens de notre côté. Ils ont vraiment achevé une sorte de contrôle territorial très étendu. Ils cherchent de traduire ces contrôles militaires sur les territoires dans une sorte de projet politique qui puisse les légitimiser au sein du processus politique syrien.
Les Kurdes ne participent pas directement au processus en cours actuellement à Genève.
Oui, vous avez bien raison. C'est cet décalage entre la présence militaire sur les territoires du nord de la Syrie et l'absence au sein du processus politique qui fait en sorte que ceux du PYD, du Parti démocratique, poussent pour traduire son succès militaire dans une participation dans les processus politiques. Et les partis du PYD, à cause de ses liens avec les partis du PKK, il a été empêché jusqu'à aujourd'hui de participer au processus politique des négociations, surtout à cause de l'objection de la Turquie.
Est-ce qu'on peut arriver en Syrie, après la guerre, à avoir une forme d'autonomie que les Kurdes ont pu avoir en Irak, par exemple?
Je pense que c'est très important de distinguer les cas de l'Irak et les cas de la Syrie. Parce qu'en Syrie, vous avez déjà une présence des Kurdes qui est géographiquement différente. Donc vous avez les Kurdes répartis dans des zones différentes du territoire, pas forcément en contiguïté. Et aussi, aujourd'hui, on a un parti dominant kurde dans cette région de Syrie, qui c'est les PYD et sa force militaire. Ces partis-là, ils entraînent, je pense aussi, d'implémenter son propre projet qui n'est pas forcément le projet que les Kurdes de Syrie veulent, on ne le sait pas. La meilleure chose à faire, ça serait des côtés des Kurdes, de pouvoir participer au processus politique de négociation diplomatique sur la Syrie, mais de manière positive, de manière constructive. Parce que cette déclaration de fédéralisme, en ce moment-là, elle est très dangereuse. Elle peut antagoniser les autres forces en Syrie, d'un côté les régimes, et de l'autre côté, l'opposition qui, en ce moment, refuse cette déclaration du parti du PYD concernant la fédéralisme.
Maria Fontapi, spécialiste de la Syrie, à International Crisis Group, basée à Istanbul, en Turquie.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la console, Nachouane Calé. Présentation, Chérubin Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.